personne n'a qualité pour me présenter des requêtes sur les intérêts de l'État. » Réplique du tsar Alexandre II à une délégation de notables moscovites en 1865.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Alexandre II est monté sur le trône de toutes les Russies en 1855. Fils de Nicolas Ier, il hérite d'une difficulté réelle puisque son règne débute alors que la guerre de Crimée oppose la Russie aux Franco-Britanniques. Cette guerre de Crimée a donc été un échec pour la Russie. Cet échec a persuadé le tsar qu'il fallait indéniablement assouplir le système autocratique et surtout pratiquer un régime de réforme pour moderniser l'immense empire russe. La première réforme dont il était question déjà depuis quelques années, c'était l'abolition du servage. En effet, au XVIIe et XVIIIe siècle, alors que dans le reste de l'Europe, le servage, c'est-à-dire ce manque de liberté personnelle qu'avait une partie des paysans, disparaissait, s'était aggravé en Russie. Et en particulier, le règne de Catherine la Grande avait vu l'expansion du servage. Au final, dans les années 1820, à peu près la moitié des paysans russes sont des serfs. Et qui plus est, on s'aperçoit aussi que ce système était de plus en plus contesté par la base, c'est-à-dire que l'on avait assisté à des révoltes de serfs qui étaient de plus en plus nombreuses et importantes. Aussi, pour le tsar Alexandre II, il s'agissait d'abolir par le haut un système avant qu'il soit aboli par le bas. Dès 1856, il avait lui-même donné l'exemple en abolissant le servage dans ses propriétés personnelles. Puis, en 1858, il a demandé à une commission impériale de lui remettre des conclusions pour abolir le servage. La commission travailla 3 ans, et il faut bien le dire, elle a sans doute un peu traîné avant de donner ses conclusions, au point que le tsar a dû taper un peu du poing sur la table pour avoir la décision en février 1861. Par un oukase impérial, il a aboli totalement le servage à ce moment-là. Cette abolition du servage a été accompagnée d'une réforme agraire, car il ne sert à rien de donner une liberté personnelle aux paysans s'il manque de terres. Il fallait en effet partager les terres, afin de donner aux paysans les moyens de vivre, en même temps que la liberté. Cette réforme fut effectuée de la façon suivante. Les seigneurs conservaient une partie de leur domaine, en général le tiers. Le reste était donné en toute propriété aux communautés paysannes, qu'on appelle les mires. Les seigneurs recevaient une indemnité de l'État pour la terre qu'on leur ôtait. Les mires remboursaient l'État par annuité s'échelonnant sur 49 ans. À vrai dire, l'État n'a pas forcément toujours remboursé les grands propriétaires. En effet, cela a été souvent en dette vis-à-vis de l'État, et finalement, celui-ci a récupéré les dettes sur les indemnités qu'il devait verser aux grands propriétaires. Autre problème qui se posait, c'était de savoir combien de terres, de desiatines, c'est-à-dire d'hectares, donnaient à chaque paysan devenu libre. Un calcul complexe a été fait selon les régions et selon les provinces, selon la richesse des terres, selon l'exposition de celles-ci. Mais si audacieuses qu'elles fussent, ces réformes cependant ne suscitèrent pas un enthousiasme général. Les nobles se plaignirent de ce que les indemnités ont été fixées à un taux trop bas, et que le règlement fut souvent différé. Quant aux paysans, ils acceptaient mal d'avoir à payer une terre qu'ils avaient toujours estimé leur appartenir, puisqu'ils la cultivaient. Ils furent aussi mécontents, parce qu'on leur laissa en général moins de terres qu'ils n'en disposaient naguère quand ils étaient seulement des serfs tenanciers. Il n'en reste pas moins vrai que l'abolition du servage est une date importante dans l'évolution de la société russe. Le tsar entreprit également d'autres réformes administratives entre 1862 et 1864. Tout d'abord, le tsar favorisa la désignation de conseils élus par les diverses catégories d'habitants, ce qu'on appelle les zenzvos. Ces zenzvos, ces conseils donc, purent délibérer sur les questions économiques, établir des taxes pour la construction ou l'entretien de routes, d'écoles et d'hôpitaux. D'autre part, la justice connut aussi une réforme. elle fut transformée de façon à donner aux justiciables les garanties usitées en Europe occidentale contre l'arbitraire. Les juges devenaient inamovibles, les affaires criminelles étaient déférées à un jury, les affaires civiles à une hiérarchie de tribunaux imitée de la hiérarchie française. Donc, en ce début d'année 1860, il semble que le tsar continuait sur une route de réforme. Mais un événement a freiné sans doute ses intentions. En janvier 1860, une révolte éclate en Pologne. La Pologne avait été récupérée au congrès de Vienne par la Russie. Varsovie était une ville de l'Empire russe. Le gouvernement russe va essayer effectivement de faire enlever de nuit, pour les incorporer de force dans l'armée, plusieurs milliers d'étudiants polonais. Ce fut la raison du déclenchement de la révolte de janvier 1863. Contrairement à la révolte précédente qui s'était produite en 1830-31, cette insurrection ne fut qu'une chouannerie menée par des petites bandes et aucune opération de caractère vraiment militaire n'eut à être combattue. La révolte fut écrasée malgré les interventions diplomatiques de Napoléon III, mais soutenue par Bismarck, le tsar put rétablir l'ordre en Pologne. Pour être réformateur, le tsar n'en restait pas moins un autocrate. Les élites russes avaient espéré que ce tsar réformateur pouvait desserrer le système autocratique, et en particulier, le grand objectif des élites libérales de l'Empire était de parvenir à la convocation d'une Douma, c'est-à-dire d'une assemblée nationale. Alexandre II fit cette réplique déjà citée « Personne n'a qualité pour me présenter des requêtes sur les intérêts de l'État ». Aussi progressivement, il y a eu un retour à la réaction policière et bureaucratique. Ceci provoqua une déception dans une partie des élites et une opposition qui s'appela le nihilisme, sorte de romantisme désespéré, a eu tendance à vouloir par la force et par la violence essayer d'éradiquer le système impérial russe. Ainsi, dès 1866, un exalté, Karakassov, osa tirer sur le tsar. Il est indéniable que les dernières années de la décennie 1860 marquent un retour à une autocratie. Le fait essentiel de la dernière partie du règne d'Alexandre II fut l'importance croissante que prit l'opposition. Tandis que les libéraux des Envos s'acharnaient à réclamer des libertés constitutionnelles, une opposition révolutionnaire cohérente s'organisa peu à peu. Renonçant au nihilisme des débuts, la jeunesse universitaire, qui formait l'élément actif de l'intelligentsia, décida, au milieu des années 1870, d'aller au peuple, de se mêler à lui pour l'instruire et le préparer à une future révolution. Ce fut ce qu'on nomma le populisme. Mais ce mouvement se solda par un échec. Les populistes furent très vite repérés par la police et surtout furent souvent mal accueillis par les masses paysannes, parce que si celles-ci pouvaient râler contre l'ordre social issu de la grande noblesse, ils respectaient quand même le petit père, qui était encore le père protecteur. Donc l'organisation systématique du terrorisme, qui se fit dès 1878, eut pour origine la violence populaire qui a été réprimée difficilement. La plupart des révolutionnaires renoncèrent en effet à la propagande pour se livrer à l'action directe. Ils entreprirent de renverser l'autocratie par la terreur. Désemparés par cette multiplication de violences, Alexandre II parut vers la fin de 1880 disposé à mettre un fin à la réaction et de préparer un projet constitutionnel. Il accepta qu'une assemblée consultative de Zenvos lui propose un texte qui permettrait de convoquer éventuellement une assemblée nationale, c'est-à-dire une douma. L'acte impérial était extrêmement important, car ça faisait finalement une innovation totale de voir une assemblée nationale convoquée par le tsar. Cet oukase, c'est-à-dire cet édit impérial convoquant cette assemblée, devait être signé le 13 mars 1881. Mais le jour même, Alexandre fut tué par une bombe, les jambes broyées, jeté par un nihiliste. Ainsi, le tsar Alexandre II avait indéniablement voulu renforcer l'idée de réforme possible dans l'Empire. Mais sa mort allait provoquer une indéniable réaction. Les tenants de l'autocratie n'acceptaient pas que ces réformes puissent aboutir à la violence politique contre le souverain lui-même. Le fils d'Alexandre II, le tsar Alexandre III, rétablit indéniablement une très forte autocratie, conseillant cela par Pobiedonovtsev, son ministre et principal conseiller. Car, comme il disait lui-même, si le projet de Douma était adopté, on devrait prononcer le finis russiae. On désire introduire une constitution en Russie. L'Europe occidentale démontre que cette idée repose sur un mensonge. La Russie est forte par l'autocratie, par la confiance réciproque entre le tsar et son peuple.